Dans l'actualité scientifique cette semaine, les produits d'hygiène pour les bébés pointés du doigt par 60 millions de consommateurs, un rapport sur la fin de vie du Comité consultatif national d'éthique et un film, Le moment et la manière, qui sort sur le même sujet. On en sait plus grâce au placoderme sur l'âge du premier accouplement et puis un taxidermiste nous fait entrer dans les coulisses de sa discipline. Mes invités pour en parler, Victoire Tsondé, Anne Kounvari, Gaël Clément et Jack Tinet. Bonjour à tous
bonjour,
les quatre.
Bonjour.
Bienvenue Victoire Tsondé, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et co-rédactrice donc de cette étude sur les produits d'hygiène pour bébés. Et selon vos conclusions, plus d'un produit sur deux serait à éviter en raison de la présence de composants allergisants ou irritants. On détaille donc cette enquête dans un instant. Ils ont été les premiers à s'accoupler. Tout le monde en parle cette semaine. Les placodermes des poissons primitifs auraient en effet été les premiers à expérimenter les joies de la pénétration. Cette information est issue d'une étude publiée dans la revue Nature. Gaël Clément, vous êtes professeur en paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. La vie et les mœurs donc des placodermes n'ont plus de secret pour vous et vous allez tout nous dire sur cet événement majeur de l'évolution qui s'est passé il y a 400 millions d'années. Le Comité consultatif national d'éthique a publié hier un rapport sur la fin de vie qui laisse entrevoir de possibles évolutions sur la loi que François Hollande a promis de réviser. Et au moment même de la sortie de ce rapport sort un film documentaire très touchant sur Anne, une femme qui luttait depuis 14 ans contre un cancer et qui n'a pas pu choisir le moment et la manière de partir. Le moment et la manière, c'est le titre de ce film, Anne Kounvari, dont vous êtes la réalisatrice. Anne, c'était votre amie et vous allez nous raconter dans quelles conditions justement vous avez filmé les derniers mois de sa vie. Et puis dans les coulisses d'une profession singulière, la taxidermie, Jack Tinet, vous êtes attaché au muséum et spécialiste de la taxidermie des grands spécimens et de leur restauration. Et vous publiez avec le photographe Jacques Weckemans, Mort ou vif, chronique d'une taxidermie contemporaine aux éditions de la Martinière avec le muséum. Un livre qui raconte à la fois l'histoire étonnante de cette discipline et la façon bien sûr dont vous travaillez aujourd'hui. On va en parler avec vous. Voilà donc pour les sujets de ce club des têtes au carré. Vous nous rejoignez dès maintenant avec vos messages, toutes vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et sur les réseaux également sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée par Hugo Struna.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Purple Haze, Jimi Hendrix pour démarrer ensemble ce club.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Et dans ce club des têtes au carré, cet après-midi, on parle des produits d'hygiène pour bébés, de la question de la fin de vie, de la toute première pratique de l'accouplement et de la taxidermie. Mes invités, la journaliste Victoire Tsondé, la réalisatrice Anne Cunvary, le paléontologue Gaël Clément et le taxidermiste Jack Tinet, et bien sûr vos messages. Toutes vos questions en direct, franceinter.fr et les réseaux avec le hashtag LATAC. Victoire Tsondé, vous êtes donc journaliste à 60 millions de consommateurs, co-rédactrice donc de cette étude que vous venez de publier sur les produits d'hygiène pour bébés. Vous avez donc testé une cinquantaine de produits. Le constat n'est pas franchement terrible, c'est même plutôt alarmant parce que la moitié de ces produits seraient à éviter. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer comment vous vous lancez dans de telles études? Comment vous choisissez vos sujets d'enquête, hein?
Alors pour ce sujet, c'est très simple. Nous, on essaie de porter à la connaissance du public des données scientifiques, des avis, et il s'avère qu'on a la chance en France d'avoir une agence qui est assez en pointe sur ce dossier. C'est l'agence de sécurité du médicament qui s'occupe aussi des produits d'hygiène, des produits cosmétiques. Mmh. Et déjà en 2012, elle avait mis des recommandations assez claires par rapport à certains ingrédients qu'on trouve dans les produits pour bébés. Notamment le phénoxyéthanol, c'est un conservateur.
Donc ça vous a donné envie d'en savoir plus,
voilà,
évidemment.
D'aller voir sur le terrain, en magasin, est-ce que l'avis de l'agence avait été relayé.
Ouais.
Et déjà en 2013, on s'était rendu compte que ce n'était pas le cas. Notamment des grandes marques de lingettes pour bébés continuaient à utiliser du phénoxyéthanol. On les avait contactés, on leur avait demandé ce qu'ils comptaient faire, est-ce que c'était un délai pour changer les formules. Non, ils nous avaient dit qu'ils ne prenaient pas en compte cet avis, qu'ils étaient des marques internationales et que l'avis de l'agence française, fondée sur des données scientifiques, ma foi...
Ils n'en avaient rien à faire.
Exactement.
Autant être très clair. Voilà, c'est ce qu'on vous répond. Hein. Ça, c'est la réalité de votre travail.
C'est exactement l'échange que j'ai pu avoir avec, oui. Avec des marques leaders donc, qui ont les moyens, à tout point de vue, de changer les formules et de proposer d'autres produits.
Oui. Parce qu'évidemment, c'est la question qu'on a envie de vous poser quand on lit une telle enquête, c'est de savoir si ça a des répercussions ensuite sur les marques. Et visiblement, pas tellement quand même.
Mais il s'avère que le public n'est pas forcément... Le public, il se dit, c'est une grande marque. Si ce produit... Et c'est ça qui est compliqué. Si ce produit est vendu, c'est qu'il ne pose pas de problème. Et malheureusement, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais. Comment vous procédez alors pour étudier ces marques? Vous enquêtez donc avec une équipe de scientifiques? Vous avez vos propres laboratoires ou vous faites appel
alors,
à des labos
Nous, le magazine s'appuie sur l'expertise de l'Institut National de la Consommation, donc auquel appartient le magazine. Mmh. On a un service technique avec des ingénieurs spécialisés dans les différents domaines de la consommation. Donc moi, je travaille en binôme avec une ingénieure qui est la co-auteure de l'article. Mmh. Et en fait, pour ce type de sujet, on demande une expertise à des scientifiques spécialisés dans ces domaines. Uh-huh. On a pris l'habitude dans nos essais comparatifs d'inclure un volet toxicologie. Donc systématiquement, désormais, on demande à un expert d'évaluer avec nous la formulation des produits sur un plan toxicologique. Mmh. Et donc, pour cette étude, on a fonctionné de cette façon.
Voilà, et c'est là clairement que vous communiquez d'ailleurs, c'est sur l'aspect toxicologique de ces produits. 52 produits d'hygiène donc, et de soins pour nourrissons, de la lingette au lait nettoyant, aux eaux nettoyantes, au liniment. C'est quoi liniment?
Liniment, c'est un vieux produit qui est revenu à la mode. En fait, c'est de l'huile d'olive mélangée avec de l'eau de chaux. Donc, il y a un processus de saponification comme pour faire du savon.
Ouais.
Et par le passé, c'était utilisé contre les brûlures. Aujourd'hui, notamment dans les maternités, c'est proposé pour nettoyer les fesses des bébés.
Voilà, donc on en trouve dans le commerce.
On en trouve dans le commerce assez facilement.
Régulièrement. Et résultat, 28 produits sont à éviter sur les 52 que vous avez étudiés.
Oui.
Quand même.
Ah ben, nous on est... Alors, la règle était simple pour ce dossier. On parle de jeunes enfants qui, pour un certain nombre de raisons, ont une plus faible capacité à détoxifier, hein, c'est un peu un gros mot, que nous autres. Et qui ont donc un enfant, ce n'est pas un adulte miniature. Donc il y a des risques qui sont plus importants.
Il y a une fragilité, une sensibilité. Fragilité.
Exactement. Hein, donc nous, on a considéré que dès qu'il y avait des soupçons suffisamment étayés scientifiquement, on propose d'éviter le produit. Donc on est assez sévère, mais on considère qu'on s'adresse à des nourrissons.
Mm-hmm.
On se doit d'être sévère. Et on parle de produits d'hygiène, donc il ne s'agit pas de médicaments. Il faut que le rapport bénéfice-risque soit réellement en faveur du bébé.
Oui.
Donc, et puis on s'est appuyé donc, sur l'avis de l'agence française, pour notamment le phénoxyéthanol, sur des mises en garde des dermatologues pour une autre substance. Alors, c'est encore un gros mot, je suis désolée. Le méthylisothiazolinone.
Mais vous le dites bien.
Bah, j'ai pris l'habitude. Il faut apprendre à le reconnaître parce qu'on le trouve absolument partout. Et pas que dans les produits pour bébé.
Donc il faut le retenir pour pouvoir le lire, parce qu'il est dans la composition des produits.
Oui, pour bébé, les produits ménagers, des lessives. Il est omniprésent et c'est vraiment, vraiment un gros souci aujourd'hui. Encore hier, suite à notre étude, la Société française de dermatologie a encore publié un communiqué pour rappeler qu'elle avait mis en garde et qu'il faut que les autorités se saisissent du problème.
Ouais. Jack Tinney, taxidermiste, qu'en connaît un rayon sur les produits chimiques quand même.
Et en... et en quoi il est toxique ce produit alors?
En fait, c'est un allergène. Donc, qui provoque notamment chez les enfants des eczémas sur le corps, sur le visage. Alors, on peut dire que c'est entre guillemets que de l'eczéma, mais comme on le trouve partout, les personnes qui se trouvent être sensibilisées à ce conservateur vont souvent réagir. Et moi, je parlais récemment à des dermatologues qui m'expliquaient que certaines personnes doivent être hospitalisées. On parle carrément d'adultes, hein, parce que ça devient invalidant quand on réagit parce qu'on se lave les mains, quand on réagit parce qu'on met une crème, quand on réagit, ça devient invivable. Et quand on est sensibilisé dans l'enfance, voilà, le mal est fait, si je puis dire.
Ouais, alors, tous les produits que vous avez étudiés, découverts, ne sont pas interdits par la loi, la preuve. Hein,
non, ils ne sont pas interdits, parce qu'il y a d'un côté l'avis d'agence, les mises en garde de sociétés savantes, et de l'autre côté, il y a la façon dont les produits sont commercialisés. Et qu'aujourd'hui, nous, on considère que ça profite aux fabricants. Donc, tant qu'il n'y a pas de... Alors, pour le MIT, il y a quand même beaucoup de... Le méthylisothiazolone, il y a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui. Mm-hmm. Mais pour autant, alors on pousse. Ça bouge un peu quand même, par exemple, pour certains parabènes. Au niveau européen, la commission va interdire certains parabènes pour les produits pour le siège, va réduire les concentrations autorisées. Mais ça bouge quand même trop lentement.
Mmh. Anne Kunvari.
Et ça veut dire que dans votre étude, on peut aussi voir, quand on a des enfants, les produits qu'on peut utiliser sans risque?
Oui, nous, on a essayé de parcourir un peu le marché sur plusieurs familles. Et on a regardé donc l'existant. Il y a des produits qui s'en sortent très bien. Il y a des lingettes avec des formulations tout à fait convenables. Et puis, il y a des produits à proscrire.
Ouais. Alors, les grandes marques ne sont pas épargnées, d'ailleurs.
Et non, mais ça, nous, on n'y peut rien. On fonctionne vraiment sans a priori. Hein. On fait notre marché comme un consommateur lambda. Et les grandes marques, par exemple, pour les lingettes, les grandes marques sont à l'index parce qu'elles mettent du phénoxyéthanol, alors que d'autres petites marques n'en utilisent pas.
Ouais. Alors, on parle beaucoup des perturbateurs endocrinien. Alors ça, c'est ce qui ressort aussi de cette enquête.
Alors, c'est l'une des plutôt bonnes nouvelles. Les parabènes controversés, propyl et butyl parabènes, sont peu présents. On trouve seulement un parabène dans un produit. Par contre, on trouve d'autres perturbateurs endocriniens potentiels, par exemple l'huile de soja. Donc ça, c'est les plus connus ont disparu, mais on a tendance du coup à trouver d'autres substances qui arrivent à la place qu'il faut apprendre aussi à reconnaître.
Ouais. Alors, ce qui est assez incroyable quand même, c'est que la notion hypoallergénique ne donne aucune garantie sur les produits, ce qui est quand même un comble. Quand on voit ce mot magique, on se dit, on y va les yeux fermés,
c'est
quasiment.
C'est proprement scandaleux. Il y a eu des démarches, il y avait un groupe de travail au niveau de l'agence, mais au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Donc, si vous voyez hypoallergénique sur un produit, ce n'est pas encadré. Nous, on a des produits, on avait des produits d'hygiène pour bébé qui avaient la mention hypoallergénique et qui avaient le fameux méthylisothiazolinone. Conclusion, cette mention ne veut rien dire, il faut pas s'y fier.
Ouais. En 2006, nous dit Lynn sur franceinter.fr, lors de ma première grossesse, j'avais entendu parler de ces recommandations. J'ai nettoyé les fesses de mes bébés au liniment, comme quoi les grandes marques perdent quand même des clients en ne tenant pas compte de ce problème. Au moins une nous écrit.
Ce qui est clair, c'est que les consommateurs ont le pouvoir. S'ils mettent la pression sur les fabricants, ils vont proposer des alternatives, ils vont se passer de ces produits. Aujourd'hui, les consommateurs vont plus vite que la Commission européenne, si je peux dire. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, à dire nous, on veut des produits sans aucun risque pour nos enfants. Et puis, on est en droit de demander ça quand même. Mmh. Et les fabricants devront suivre.
Gaël Clément.
Oui, vous utilisez souvent des termes effectivement un peu compliqués, de chimie organique, etc., qui font un peu peur.
Au placoderme, on va en parler tout à l'heure, ça fait peur aussi, hein, je vous rassure.
Et là, par rapport au liniment, justement, vous disiez que c'était un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux. Et donc, on revient à un remède de grand-mère et on se dit qu'on peut être confiant. À ma connaissance, l'eau de chaux, c'est une substance qui est excessivement agressive pour la peau. On utilise la chaux généralement pour justement éliminer les chairs. Donc là, il y a peut-être aussi un petit bémol
Bonne remarque de Gaël Clément.
Aux substances dites naturelles qui peuvent aussi être nocives.
C'est pas parce qu'une substance est naturelle que forcément elle va présenter aucun risque. Là-dessus, c'est pas du tout le message qu'on essaie de véhiculer. Mais quand on a, nous, analysé les formules analyser les étiquettes des formules de liniment, on avait aussi des a priori et force était de constater que globalement, ils avaient des formules qui étaient plus limitées et plus, sobres.
Et bien dosées, on imagine. Bien dosé.
Pour autant, on met aussi en garde dessus, ce sont des produits qui n'ont pas de conservateurs. Donc c'est bien quelque part sur le plan toxicologique. Il faut faire attention à ne pas dépasser la limite d'utilisation parce que ça peut poser d'autres soucis.
Voilà, donc cette enquête vient de paraître dans les pages de 60 millions de consommateurs, Victoire Tsondé. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus, et là pour le coup, il y a vraiment les marques avec les produits, on ne les a pas cités à l'antenne, c'est très bien, mais on peut en savoir plus et se renseigner directement, aller voir ce qu'on utilise à la maison.
Tout à fait.
Et donc se méfier et pouvoir changer de produit le cas échéant. Anne Kunvari, vous êtes la réalisatrice d'un film documentaire appelé Le Moment et la Manière qui sort cette semaine et qui montre la lutte de votre amie Anne Matalon contre un cancer des ovaires. Ce film montre les derniers mois de son combat contre la maladie, sa tentative de préparer sa fin de vie. Et votre film fait écho à un rapport du Comité consultatif national d'éthique qui vient tout juste de paraître et que présentait justement ce matin même Jean-Claude Amezen, son président, dans la matinale de Patrick Cohen. On écoute tout de suite un premier extrait de votre film Le Moment et la Manière.
Quand est-ce que tu as compris que la question n'était plus une mort proche, mais une vie avec des traitements?
C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans le deuil, on va dire. Je pleurais tout le temps. Parce que moi, je pensais qu'il fallait se préparer à mourir, et tout, comme les philosophes. Donc pour ça, ça veut dire qu'il fallait y penser tout le temps, que quand je voyais un truc, il fallait que je dise au revoir. Donc évidemment, c'était catastrophique. Donc justement, je me souviens que j'étais à Monaco. Il faisait super beau, c'était en février, il y avait la mer et tout. J'étais sur la plage, je me disais, je ne verrai plus jamais ça et tout. Puis j'ai appelé Elisabeth. Et puis elle m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire du tout. Fais comme les ados. Ils font vraiment comme s'ils allaient vivre... Enfin, comme font les ados d'ailleurs, tout le temps. Enfin, voilà, même s'ils savent, pour certains, que c'est bientôt la fin, quoi. Elle m'avait dit, bon, toi, t'es raisonnable aussi, t'es adulte, donc tu dis, il faut que je prépare... l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir, nanana. Je m'ai dit, mais tu peux aussi dire, ils se démerderont. Puis au bout de 3 ans, je me suis dit, mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Peut-être que dans 3 ans, je serai encore là. Donc du coup, peut-être dans 6 ans, et 6 ans après, je serai encore là. Je ne sais rien. Et retour à la case, on ne sait pas, et voilà.
Et voilà, c'est quoi?
Comme tout le monde, quoi. J'ai retrouvé ce petit côté naïf de tout le monde. Voilà, ça ne me concerne pas tout de suite. C'est pendant très longtemps, j'en sais rien, tout.
Voilà, extrait de Le Moment et la Manière. Anne Kunvari, comment vous avez commencé justement à filmer votre amie dans les derniers mois de sa vie?
On a décidé avec Anne de faire un film justement sur la chronicité du cancer. C'est-à-dire ce que voulait dire vivre avec un cancer quand on sait qu'il n'y a pas d'espoir de guérison. Parce que c'est très différent que quand on vit avec un cancer et qu'on espère guérir. Et donc on a commencé à faire ce film, donc j'ai commencé à tourner. Et puis petit à petit, très rapidement, en fait, Anne a été hospitalisée et puis elle n'est pas sortie de l'hôpital. Et puis voilà, c'est parti en vrille et le film s'est transformé en un film sur sa fin de vie. Mais la première partie du film, on est vraiment avec Anne, avec cette question de comment on fait pour continuer à vivre et à vivre bien avec un cancer et donc avec des traitements et donc avec cette espèce d'épée de Damoclès un peu plus présente que pour vous et moi.
Donc vous avez filmé les 3 derniers mois en l'occurrence de sa vie. Est-ce qu'à un moment vous avez hésité à poursuivre finalement le tournage ou pas?
En fait, vers la fin du film, quand Anne est hospitalisée dans une clinique de suite et que moi je comprends qu'elle va mourir, là je lui ai demandé si elle voulait qu'on continue de faire le film, si elle voulait que je continue de filmer. Et là, elle m'a répondu, oui, je pense que c'est important de montrer aussi ça. Et donc, j'ai continué de filmer.
Et c'était aussi une façon pour elle de parler justement de la fin de vie.
Parler de la fin de vie, du choix. Je pense que Anne s'est trouvée coincée et piégée justement alors qu'elle aurait souhaité choisir
le moment et la manière,
de mourir. Et je pense que le fait d'exposer ça au monde, à nos regards, à notre réflexion, c'était une manière de donner du sens à ce qui était insensé, en fait, et de rendre utile quelque chose qui, à vivre, était, moi, il me semble, un peu inutile. Ouais.
Alors, c'était aussi un film sur votre relation amicale, à vous, avec ses amis, qu'on voit beaucoup, qu'on voit d'ailleurs beaucoup plus que le corps médical, qui est absent, d'ailleurs, de ce film. Pour quelle raison? Alors, il y a juste une amie oncologue, avec laquelle elle a une relation très particulière, mais sinon, on ne voit absolument pas le personnel soignant dans l'hôpital où elle se trouve.
Alors, dans le premier hôpital où elle se trouve, qui est l'hôpital Saint-Antoine, on ne le voit pas parce qu'en fait, comme les choses ont été très rapides, qu'elles se sont précipitées, on n'a pas eu le temps d'avoir l'autorisation de l'ensemble du service, etc., de filmer. Donc, ils nous ont dit, vous filmez dans sa chambre et dans son espace privé. Donc, mais là, il y avait vraiment du personnel médical. Dans la clinique de suite, on n'a pas eu le temps, mais de toute façon, c'était au début de l'été. le personnel était débordé, le service était... Enfin bref, il y avait une absence de présence médicale et d'accompagnement très forte.
Ouais. Et vous, le fait d'apparaître à l'image, alors c'était aussi vous mettre dans une posture tout à fait particulière, à la fois réalisatrice et aussi personnage de ce film. C'était compliqué pour vous ou pas? Parce qu'on voit peu votre visage. Mmh. Hein, vous êtes souvent de profil, vous êtes souvent caché par vos cheveux. c'était difficile pour vous de vous montrer aussi face caméra ou pas?
En fait, pas tant que ça, à partir du moment où on en a fait le choix. Au début, on s'est dit qu'il y avait deux possibilités, moi, que je l'interroge derrière la caméra et que je sois à côté d'elle. Et on a essayé les deux et on s'est rendu compte qu'en fait, quand j'étais à côté d'elle, on était beaucoup plus dans notre relation quotidienne, dans notre relation à nous, normale, etc., et que c'était beaucoup plus fort. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de jouer le jeu. J'en avais pas... Enfin, au départ, c'était pas ce qui m'amusait le plus, mais j'ai trouvé que c'était normal. Et en plus, j'ai trouvé normal de m'exposer moi aussi. C'est-à-dire qu'on était sur un terrain quand même où Anne nous faisait partager des pensées intimes et des confrontations difficiles, puisqu'il y avait des réalités de la vie qui nous concernent tous, mais enfin qui sont difficiles. Et donc moi, j'ai trouvé normal de moi aussi m'exposer. Voilà.
Autre extrait de ce film.
Et ce qui te rassure, c'est de penser que si tu veux, tu peux arrêter de vivre, j'entends.
Ce qui me rassure, c'est de penser que je vais décider de comment j'arrête de vivre. Parce que décider d'arrêter de vivre, il y a plein de moyens à ma portée, hein, mais que je suis incapable de faire. Enfin, de suicide, de trucs, alors là, je ne peux pas. Et c'est de choisir, ouais, c'est ça, ce qui est important pour moi, c'est de choisir le moment. De choisir le moment et la manière. Parce que vraiment, je crois que je ne veux pas... Je ne veux pas d'une mort, par exemple, dans ce service, qui est super bien et tout, mais qui dure un mois, et où je te dis, où j'aurai un tuyau qui me fait mal, où je serai pas bien, où je serai très inconsciente, ou très peu consciente, je déteste ça. Enfin, bon. Je pense que ça me plaira pas du tout, et j'ai pas envie d'essayer, parce que si je suis dedans et que ça me plaît pas...
C'est un peu trop t'arranger
le crâne, ouais. Voilà. Alors, si on avait l'euthanasie et tout, bah, peut-être que ce serait différent, parce que... On sait qu'on peut voir venir, et puis si vraiment on peut plus, on le dit. Ça m'apaise et ça me rend calme, quoi. Sinon, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai peur d'être piégée. Alors peut-être que je le serai, mais ça, c'est moi, c'est un, mettre un peu plus de chance de côté pour pas l'être.
Et elle a été piégée, finalement.
Et elle a été piégée.
C'est ça aussi. Hein.
C'est ça qui est terrible.
C'est le film de cette dépossession, hein. C'est
voilà,
ce que
absolument.
Vous expliquez.
Et elle a été piégée, je crois, pour deux raisons cumulées. Et l'absence de moyens qui fait qu'il n'y avait pas de lit au bon endroit au bon moment. Et ça, ça arrive tous les jours à plein de malades. Et deuxièmement, la loi qui ne permet pas à un malade, aujourd'hui, d'imposer sa vision de sa fin de vie. Et donc, en fait, Anne, qui aurait voulu choisir le moment et la manière, c'est-à-dire, je pense juste, si à un moment, elle avait vraiment eu envie d'arrêter, qu'elle puisse le dire et qu'elle arrête, entourée des gens qu'elle aime, eh bien, en fait, elle a subi sa mort. Et je crois que la possibilité d'arrêter peut être juste quelque chose de terriblement rassurant. Ça ne veut pas forcément dire finalement qu'on arrêtera. Je pense que quand on sait qu'on peut arrêter, ça permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Un peu comme Coluche qui disait « je voudrais mourir en pleine vie ». Enfin, eh bien, c'est un peu ça. Et je crois qu'Anne avait un amour terrible de la vie. Mais quand on a peur d'être piégé dans la souffrance, dans une agonie qu'on ne peut pas maîtriser, eh bien, ça rend difficile même de vivre ses derniers moments de vie.
Elle avait envisagé de partir en Suisse, à Zurich, hein, oui. C'est ça. Et malheureusement, là aussi, donc, elle a pas pu préparer ce voyage, mais elle avait réuni les papiers, il y avait toute la documentation, elle savait exactement ce qui s'y passait, mais évidemment, physiquement, elle était déjà très affaiblie et ne pouvait pas donc partir là-bas. Donc c'est pour vous aussi un film important, parce que c'est le message aussi qu'elle a porté sur la fin de vie, et qui arrive aussi en ce moment où cette question évidemment est très discutée, où la loi va être révisée, où le Comité consultatif national d'éthique donc, a publié un rapport sur la question. Jean-Claude Amezen donc, en parlait ce matin. Et c'est vrai qu'en creux de ce rapport, on voit que des possibles évolutions risquent d'arriver évidemment hein, dans cette loi donc, que François Hollande a promis de réviser. Jean-Claude Amezen dressait un constat très noir justement de la fin de vie en France. Il est très sévère. Hein. Il dénonce un scandale de manque d'accès aux soins palliatifs.
Mais Anne n'a pas eu accès aux soins palliatifs, comme 80% des gens qui en auraient besoin, bien sûr. pour l'instant, les gens n'ont majoritairement pas accès aux soins palliatifs et se retrouvent dessaisis de leur fin de vie puisque leurs volontés ne peuvent pas être entendues. C'est-à-dire, le rapport d'Amezen dit aussi ça, les gens demandent à ce que leur volonté soit prise en compte et à ce qu'ils soient écoutés. Ça veut dire qu'entre eux, aujourd'hui, ils ressentent qu'ils ne sont pas écoutés, pas entendus et pas respectés.
Oui, donc ça, ce sont les fameuses directives anticipées, dont on espère qu'elles vont évoluer précisément et qui seraient comme une sorte de testament, au fond, pour la personne qui arrive en fin de vie et qui pourrait donc vraiment défendre son choix de ne plus avoir de traitement, par exemple, auprès du corps médical.
Alors, les directives anticipées, en fait, elles sont utiles lorsque vous êtes inconscient. Donc, quand vous vous retrouvez dans un coma, etc. Donc, elles portent votre volonté. Et aujourd'hui, les médecins doivent seulement en tenir compte. Là, effectivement, une des évolutions visiblement envisagées, est-ce qu'elles deviennent contraignantes. Mais il y a aussi quand vous êtes conscient. C'est-à-dire que la question se pose quand vous êtes conscient et que vous dites « moi, je voudrais m'en aller comme je l'entends ». Et là, aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est les médecins qui décident. Mmh. Et il ne me semble pas qu'il y ait la possibilité, en tout cas dans le rapport, d'évolution vers le suicide assisté, vers l'euthanasie. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à débattre, parce que quand même, à chaque fois qu'il y a des sondages, les gens répondent massivement qu'ils veulent être libres de choisir leur fin de vie.
Oui, sauf que là, effectivement, il y avait déjà eu un avis rendu par le comité d'éthique en 2013, l'année dernière, qui avait recommandé de ne pas légaliser sur justement l'euthanasie ou le suicide assisté.
Mais ce divorce entre la société et ses représentants, aussi bien politiques que médicaux, est moins un divorce qui me questionne. Je crois qu'aujourd'hui, la société est prête et la société a envie de pouvoir faire de sa fin de vie son choix. Et donc ceux qui veulent vivre leur fin de vie jusqu'au bout et pour qui la souffrance est rédemptrice pourront toujours le faire. Mais tous ceux qui n'ont pas envie de se voir mourir ou qui voudraient être rassurés dans le fait qu'ils pourront arrêter si vraiment c'est insupportable, pourront aussi le faire. C'est de la liberté en plus que demandent ces gens-là. Ça n'enlève de liberté à personne d'autre.
Jean-Paul nous envoie un message de Belgique qui nous dit « Chez nous, on a la possibilité du moment et du moyen. » J'aime beaucoup cette expression. C'est absolument parfait. Chacun, dit-il, devrait pouvoir faire ce qu'il veut, y compris le choix donc, du moment et du moyen. Et c'est exactement le message de ce film. Droit à la sédation profonde, ça aussi, c'est vraiment une demande très largement partagée par les Français aujourd'hui. Évidemment, est-ce qu'il s'agit de stopper la souffrance ou d'accélérer le décès? Il y a cette ambiguïté, évidemment, dans cette notion.
Mais moi, ça me paraît un peu byzantin comme notion. Enfin, on endort quelqu'un, on l'anesthésie jusqu'à sa mort. Alors, si on l'anesthésie et un dosage assez faible, sa mort peut éventuellement prendre une semaine, 15 jours. Si on met un dosage plus fort, soyons clairs, c'est un moment où quelqu'un n'a plus envie de se voir mourir, il a envie d'arrêter, laissons-le arrêter. Moi, j'avoue que parfois, je suis un peu dépassée par les subtilités.
En tout cas, un projet de loi peut-être en mars. Malheureusement, le calendrier bouge sans arrêt, donc c'est très compliqué.
Oui, il recule sans arrêt.
Et oui, François Hollande annonçait mardi que le projet serait déposé au Parlement autour du mois de mars. En attendant, donc, il y a cette mission Clay Leonetti qui doit rendre ses conclusions au plus tard au 1er décembre en vue d'élaborer justement des propositions concrètes sur cette réforme. Le moment et la manière. Alors, c'est à voir en ce moment à l'Espace Saint-Michel à Paris. Donc, il y a un cinéma qui le diffuse. Donc, il faut vraiment bien le choisir.
Absolument. Mais allez-y, n'ayez pas peur, c'est pas un film triste. Je crois qu'Anne était quelqu'un de lumineux, d'élégant, et on sort de ce film avec une envie de vivre terrible.
Allez, deux réactions très rapidement. Victoire Tsandé, pour commencer.
Pendant combien de temps vous avez... Enfin, le film, c'est une heure et demie, mais pendant combien...
C'est une heure.
Combien de temps vous avez accompagné Anne?
En fait, je l'ai accompagnée sur ces 4 derniers mois avec la caméra.
D'accord.
Mais on se connaissait depuis bien plus longtemps.
Gaëlle Clément, pour terminer.
Oui, c'est par rapport à la diffusion du film, parce que dans notre société, en particulier les sociétés occidentales, on cache la douleur, on cache la mort toujours. Alors comment faire dire qu'est-ce qu'il faut faire auprès du public pour qu'il ait le courage de venir regarder le film, surtout dans cette prise de conscience de débat qui concerne tout le monde sur l'accompagnement à la fin de vie?
Écoutez, nous, on essaye en apportant ce film, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je crois aujourd'hui qu'effectivement la mort est un grand tabou dans la société française. Et quand on dit à quelqu'un, je viens de faire un film sur la fin de vie d'une année et demie, non, c'est pas ça. Je crois que le film propose une expérience, on rentre dans la tête d'Anne, on l'accompagne. Et je crois que c'est un film très rassurant, enfin de confrontation, qui est un film rassurant. Mais ça, je crois que c'est aussi à chacun de se dire que voilà, c'est notre rendez-vous commun. Et donc, autant le réfléchir, le penser et s'y préparer.
Et c'est à l'espace Saint-Michel à Paris en ce moment. Et puis ensuite, le film va tourner en province, Montpellier, Toulouse, Lille à partir du mois de novembre. Et le site internet lemomentetlamanière.fr, on pourra avoir toutes les infos. Alors pour l'instant, les salles de province ne sont pas encore sur le site, mais ça va venir.
Ça va venir très bientôt.
Mais vous pouvez voir déjà des extraits du film et puis prendre contact peut-être pour le faire venir près de chez vous. Anne Kounvari, vous restez évidemment avec nous. On poursuit dans un instant, on va s'intéresser à un autre sujet intéressant, le placoderme.
Je suis une guimauve, un sucre, un sirop. Je suis un coulis, le dos blanc d'un croco. Je suis un bonbon qui colle, un goûter après l'école. Je suis un dragibus, un berlingot. Je suis le porte-parole d'Haribo. Je suis un chausson aux pommes, un michoco à la gomme. Je suis la porte ouverte qu'on enfonce, un programme de bimbo pour la France. Aimez-vous, aimez-vous et rendez-nous l'envie. Je suis une pleureuse de cinoche, un stimorol perdu dans ta poche, un trésor de mioche. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bamo. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bamo. Ah, il est chou, mais il a rien connu, il est choyé. Faut assez de larmes dans mon vécu pour se noyer. Faut arrêter d'associer docile et gentil. J'entends le sucre se marie bien avec le piquant. J'entame, j'étonne à la tonne, bah j'ai cœur comme une orgie de loukoum, une cuite à la liqueur. Je m'attelle à trouver beau le monde et beau les gens, obligeant mon empathie à trouver bon les gens. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. De la douceur à la caresse, et du coup j'éponge le stress avec mon petit cœur. Désabusé, faut pas confondre les imbéciles avec ceux qui savent espérer, avec les gentils, les légers. De la douceur à la caresse, et du coup j'éponge le stress avec mon petit cœur.
Chamallow avec Ben Mazoué dans ce club des têtes au carré avec Victoire Tsondé, Anne Kounvari, Gaël Clément et Jack Tinney. On va parler de taxidermie dans quelques minutes. Mais avant cela, Gaël Clément, ben, on reste au Muséum National de l'Histoire Naturelle puisque ce sera également le lieu pour évoquer la taxidermie. Ils ont été les premiers à goûter aux joies de l'accouplement, les placodermes. On les honore cette semaine de la prestigieuse revue Nature. Gaël Clément, les placodermes, ce sont des poissons primitifs.
Ce sont des poissons très primitifs, oui.
Qui
n'existent plus. Les derniers ont disparu il y a 360 millions d'années.
Ah oui, donc ça fait quand même un petit moment. Ils ressemblaient à quoi, ces petits poissons?
Alors, c'est pas forcément des petits poissons. Ils étaient très, très diversifiés au niveau des espèces. Il y avait plus de 500 espèces connues.
Ah oui, quand même.
Quand même, oui, non, c'était. Enfin, je vais peut-être y revenir. Mais à l'époque, au Dévonien, donc entre moins 410 et moins 360 millions d'années, c'était vraiment le groupe dominant dans les mers. C'était l'époque des placodermes. Et les requins, les poissons osseux, par exemple, qu'on connaît aujourd'hui, étaient très, très minoritaires. Donc, c'était l'âge du placoderme.
Et pourquoi ça vous fait rire, Victoire?
C'est le terme placoderme. On a du mal à se figurer à quoi ça peut ressembler.
Ah, vous allez nous le dire.
Alors, je vais vous le dire. Oui. Alors, c'est effectivement lié à la peau. En fait, donc, ces animaux pouvaient atteindre quelques centimètres à l'âge adulte, jusqu'à 10 mètres de long, avec
une
forme méga prédatrice.
Ah oui, c'est pas un petit poisson alors, oui.
Et placoderme, ça vient de plaque osseuse sur le derme, sur la peau, parce qu'effectivement, ils ont la tête et l'avant du corps qui est recouvert de grosses plaques osseuses qui les protégeaient comme une cuirasse.
Voilà, et à l'époque, il n'avait pas besoin de produits d'hygiène, justement, pour se protéger. Il vivait où exactement, Gaël Clément?
Ah, répartition mondiale.
Il y en avait absolument partout. Hein. Oui. Et ils sont considérés comme les premiers vertébrés de l'histoire, c'est ça?
C'est considéré comme les premiers vertébrés à mâchoire.
À mâchoire, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de ces placodermes? Parce qu'il y a quand même cette publication dans Nature qui indique donc qu'il y avait accouplement, donc fécondation interne chez le placoderme, ce qui était une chose inconnue par les scientifiques jusqu'alors?
Alors c'était non seulement inconnu, mais en plus c'est relativement difficile à imaginer, en partie à cause de notre anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on a autant pensé qu'effectivement la fécondation interne, qui nécessite des adaptations morphologiques, anatomiques particulières, et souvent en lien à un comportement social complexe, était apparue donc bien après la fécondation externe. Mmh. Alors encore une fois, je rappelle que nous faisons la fécondation interne.
Apparemment,
et,
oui.
Apparemment. Et donc, on a toujours l'idée que nous sommes bien sûr les plus évolués et que ce qui nous concerne est arrivé assez récemment dans l'histoire de la vie, ce qui, là, avec les placodermes, nous prouve le contraire.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une découverte d'un chercheur, c'est ça, qui est tombé sur un fossile tout à fait particulier?
Alors effectivement, les placodermes, donc 500 espèces connues, fossiles, beaucoup d'espèces répertoriées. Comme je disais, c'est que la tête et le corps, l'avant du corps, qui est protégé de plaques. Et au cours de la fossilisation, c'est essentiellement ces plaques qui sont conservées. Le reste du corps, cartilagineux, ne se conservait pas. Mmh. Et c'est récemment, dans des sites à conservation exceptionnelle, en Australie, mais également en Écosse, que la région qui entoure le cloaque a été mise en évidence. Et autour de ce cloaque, des petits éléments osseux, qu'on appelle des claspères, et qui sont, en tout cas chez les mâles, des organes d'intromission pour une fécondation interne.
Donc c'est la preuve. La pièce à conviction qu'il manquait justement au puzzle de l'histoire du placoderme. Oui. C'est un paléontologue australien, c'est ça, hein, qui est tombé sur ce fossile, donc assez récemment, je crois que c'était en 2008.
Oui, c'est ça.
Hein, et donc il a évoqué effectivement cette fécondation interne, donc il fallait trouver évidemment l'indice, et l'organe a été donc identifié. Jusqu'alors, personne ne l'avait vu?
Personne n'avait vu, ou alors personne n'avait repéré que ces petits éléments osseux, donc qui sont ces organes d'intromission, ce sont vraiment tout petits organes osseux en forme de L,
d'accord,
parfois recouverts d'épines. Et quand on les trouvait isolés dans le sédiment, on n'a jamais pu les rapprocher à quelque chose de connu. Là, il a fallu effectivement trouver des spécimens complets, en connexion anatomique, comme on dit, pour effectivement visualiser que ces éléments en forme de L vont par paire et se retrouvent dans la région cloacale.
Oui, je vois Anne Koudvari plisser les yeux, très intéressée parce que vous nous racontez. Impossible évidemment de faire de la taxidermie autour du placoderme,
Jack Tinney,
puisque là maintenant, ils ont disparu à quel moment alors?
Ils ont tous disparu il y a 360 millions d'années.
Ah oui, donc ils n'ont pas connu les dinosaures.
Les premiers dinosaures, c'est moins 230 millions d'années, c'est bien après.
Victoire Tondé.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des poissons qui ont conservé cette propriété? Je ne sais pas trop quel terme utiliser.
Oui.
Ou est-ce que ça a disparu avec les placodermes?
Alors ça, c'est une question excessivement intéressante parce que ça nous pose des problèmes. La fécondation interne donc, est connue maintenant chez les placodermes. Dans le monde actuel, elle est connue chez les crocodiles, les oiseaux, les mammifères, mais également chez les requins. Voilà, les requins, si vous regardez un reportage sur les requins, vous verrez, de temps en temps, il y a des mâles qui ont des expansions allongées, par paire également,
au niveau du cloaque. Ils en ont deux,
oui.
Ah tiens.
Plus chanceux que d'autres.
Oui,
Et c'est effectivement une fécondation interne chez tous les requins actuels.
Oui, donc on peut dire que le requin a deux pénis, en fait.
Hein. Oui.
C'est ça. Donc le placoderme donc, avait ce petit L, hein, ce petit pénis, qui lui permettait donc de mettre son sperme à l'intérieur de la femelle. Donc pour répondre à la question de Victoire Tsondé, aujourd'hui, dans le milieu aquatique, donc c'est assez minoritaire finalement la fécondation interne.
Oui, c'est très minoritaire. Donc en dehors des requins, les autres vertébrés aquatiques, tous les poissons classiques qu'on peut imaginer, les poissons osseux, mais également les amphibiens, pratiquent la fécondation externe. C'est-à-dire que la fécondation des œufs et le développement embryonnaire se déroulent dans le milieu extérieur, le milieu aquatique. C'est deux stratégies de reproduction complètement différentes, fécondation externe, fécondation interne.
Oui. Quel est l'avantage de l'une ou de l'autre d'ailleurs? Alors pour la fécondation interne, par exemple, on imagine que ça protège les embryons?
En fait, les deux sont intéressantes. Fécondation interne, effectivement, il y a un nombre d'individus, donc de juviniles, qui est très restreint, parce que le corps de la mère n'est pas extensible.
Voilà. Mais ils sont mieux protégés,
Mais ils sont protégés, effectivement, au cours du développement de l'œuf et de l'embryon. Et quand ils sortent, ils sont entièrement formés et peuvent se défendre déjà tout seuls. On voit aussi des reportages sur la reproduction des saumons ou autres. Les saumons font une fécondation externe et les femelles larguent des milliers d'œufs Et là, c'est une fécondation externe. Le mâle, après, répand sa semence sur les œufs dans le milieu aquatique. Et c'est une nourriture, une quantité de nourriture énorme pour tous les prédateurs. Il y a beaucoup, beaucoup de casse. Ouais. Le principe, c'est que généralement, une femelle essaye, au cours de sa vie, d'amener à terme, donc à une nouvelle reproduction, au moins deux individus. Mm-hmm. Donc il y a une perte énorme dans la fécondation externe, d'où les milliers d'œufs nécessaires.
Anne-Cunvary.
Oui, pourquoi ça a disparu, les placodermes ?
Eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu une grande crise à la fin du Dévonien, une grande crise environnementale, sans doute liée à des contacts entre de nouvelles masses continentales qui ont entraîné un changement climatique et océanique. Et les placodermes donc, étaient très, très diversifiés. Encore une fois, ils étaient maîtres dans les mers à cette époque-là. Et au cours de la fin du Dévonien, il y a déjà, on voit déjà une régression, un nombre d'individus un peu moins important, d'espèces importantes. Et cette crise majeure, un petit peu comme celle qui a vu la fin des dinosaures non-oiseaux, a été vraiment le coup de massue qui a fait disparaître entièrement les placodermes.
Est-ce que ça fait disparaître en même temps la fécondation interne ou pas ?
Alors, ça a fait disparaître la fécondation interne, effectivement. Donc, la fécondation interne est apparue donc, très tôt dans l'histoire de la vie, chez les premiers vertébrés à mâchoire, chez les placodermes. Après, effectivement, elle a disparu. Et puis, elle est revenue donc, chez les requins, comme je le disais, et bien sûr aussi chez donc, les crocodiles, les oiseaux
donc,
et les mammifères.
Combien de temps s'est espacé entre les deux périodes ?
Les requins, c'est difficile de savoir exactement quand les premiers claspères sont apparus chez les requins, parce qu'encore une fois, ce sont des animaux cartilagineux, donc ça se conserve très très mal. Et c'est également difficile de le savoir chez les vertébrés terrestres, parce que, c'est un, comme vous le savez aussi, c'est un organe composé de tissu mou qui se fossilise très très mal. Mais du coup, c'est environ, le premier reptile, c'est 200 millions d'années.
Alors ce qui est étonnant, c'est que dans la publication, on apprend comment le placoderme s'accouplait. En plus, on a tous les détails.
Alors on a tous les détails. Alors, non, on n'a pas les détails de on n'a pas tous les détails, mais on a...
On connaît la position quand
on
même.
On connaît la position, qui n'est pas celle du missionnaire. non, c'est intéressant parce que donc, là, c'est décrit chez un groupe de placodermes qu'on appelle les antiarches, et qui donc sont protégés sur l'avant du corps, mais qui ont également les nageoires pectorales, donc les nageoires paires situées à l'avant du corps, qui sont aussi recouvertes de plaques osseuses. Et ça fait un petit peu comme des pinces de crabe. Donc c'est pointu et en plus c'est épineux, avec des épines qui sont orientées vers le corps. Et on pensait au départ, depuis toujours, que c'était uniquement des armes contre les prédateurs. Donc une fois qu'ils étaient attrapés dans la gueule, ils déployaient leur nageoire pour essayer donc de blesser le prédateur. Et en fait, on suppose maintenant qu'un mâle et une femelle se plaçaient côte à côte. Et donc ils s'imbriquaient leur nageoire pectorale, un petit peu comme des pinces de crabe. Les épines s'imbriquaient les unes dans les autres. Et... de cette façon-là, puisque l'organe copulatoire du mâle est un L qui est dirigé vers l'extérieur, il pouvait, donc, en mettant les corps côte à côte, faire une reproduction. Et finalement, c'est assez similaire de ce qu'on connaît chez les requins actuels, parce que les requins donc, pratiquent aussi une fécondation interne.
Et ils se cramponnent aussi ?
Non, généralement, ils se cramponnent, mais dans ce cas-là, ce qui se passe actuellement, c'est le mâle, très généralement, mord la nageoire pectorale de la femelle et s'y accroche pendant des heures. Ce n'est pas forcément agréable, parce qu'il y a souvent des traces...
C'est la morvache, quoi. Hein.
C'est la morvache.
Oui, ben oui.
Pour pouvoir donc, se mettre en position pour réaliser l'accouplement.
Vous avez des beaux placodermes au muséum ?
On a des très beaux placodermes au muséum. On en a des magnifiques qui sont exposés, dont justement un crâne complet d'un de ces placodermes qui pouvait atteindre 10 mètres de long et qui est dans l'entrée de la galerie de paléontologie.
En tout cas, ce que ça montre, c'est que vraiment la nature a exploré plein de manières au fond de se reproduire.
Exactement, parce que là, chez les placodermes, c'est un organe intromitif qui est composé d'une plaque modifié en L donc pour permettre une intromission. Chez les requins, c'est un élément de la nageoire pelvienne, donc les nageoires paires arrière, qui est modifié pour former une sorte de tube qui va permettre donc, le placement du sperme. Et chez les crocodiles, mammifères, etc., c'est donc le pénis qui est une structure encore complètement différente. Donc c'est un petit peu des bricolages de l'évolution pour pouvoir... introduire donc le sperme au sein même de l'ovidique de la femelle.
Voilà, donc première fécondation interne, il y a 400 millions d'années, ben, c'est pas rien quand même, et ça mérite un article dans Nature, c'était le cas cette semaine. Merci beaucoup Gaël Clément pour toutes ces précisions passionnantes. Jack Tinet et Anne Cunvary, qui disaient très intéressés par le placoderme, qui a encore plein de questions à vous poser, mais je suis sûr qu'elle va le faire en sortant de ce studio dans quelques minutes avant de partir en week-end. Jack Tinet, on reste au muséum justement avec vous. Vous êtes quand même un homme un peu à part dans cette maison.
Oh,
ben, quand même, il n'y a pas beaucoup de taxidermistes. Hein. C'est un métier rare quand même, non ?
Ben, au muséum, il y en a beaucoup, en revanche.
Vous êtes combien là-bas ?
Il y a 4 taxidermistes, presque 5 d'ailleurs.
Ouais. Et vous êtes le spécialiste des grands spécimens plutôt ?
J'y travaille plus. Oui. Mais je suis spécialiste, effectivement, des grands spécimens, de la restauration des grands spécimens, oui, et de la création des mammouths, autres dragons, etc.
Voilà, puisque vous pouvez aussi faire de la taxidermie sur des animaux disparus. Hein.
C'est ce absolument. Alors, c'est plus de la taxidermie, c'est de la reconstitution.
Oui. Donc, il faut employer les bons termes. Voilà. Hein. Soyons précis scientifiquement, évidemment. Livre qui est publié à l'occasion du 20e anniversaire de la Grande Galerie de l'Évolution, donc aux éditions de la Martinière, avec le muséum, et des photographies de Jacques Vecchio. Mans, ouais, donc qui vraiment permet de voir de très très belles choses, tout ce que vous fabriquez. La Grande Galerie de l'Évolution, par exemple, il y a beaucoup de vos animaux dans cette Grande Galerie. Est-ce qu'on aura une pensée pour vous quand on y va ?
Il y en a une, je dirais, entre 50 et 100. Ouais. Mais il y en a encore plus dans les réserves.
Mais c'est ça.
Parce que, en fait, la galerie a été faite entre 1990 et 96, et elle a été faite sur la base de l'ancienne collection de la Grande Galerie de Zoologie et, ouais, de la collection du Duc d'Orléans dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on a rapporté de nouveaux animaux lorsqu'il a fallu changer des spécimens qui étaient fatigués. Et les créations pour remettre un nouveau spécimen dans la collection, c'est pas facile à cause de la muséologie. Ouais. Existantes, quoi.
Et c'est vrai que les ateliers de taxidermie sont des endroits formidables quand même. Ce sont des cabinets de curiosités géants.
Absolument.
Avec des choses très étranges. Il y a des bêtes partout, il faut les imaginer ouais, dans des tiroirs ou à l'extérieur. Mais c'est vraiment un monde très à part. Hein.
Et oui, bien sûr.
Et c'est là que vous avez travaillé.
Qui étonne souvent les visiteurs, parce que les gens ne se doutent pas de la manière dont c'est fait, quels sont les processus de fabrication, justement.
Ouais, c'est une histoire très ancienne, hein, c'est ce qu'on apprend dans le livre. Les premiers taxidermistes, au fond,
les premiers taxidermistes n'étaient pas des taxidermistes, hein, parce que, en fait, cela nous renvoie au cabinet de curiosité, au bas Moyen-Âge, à la Renaissance. Et il y avait déjà, on voit, par exemple, sur une gravure de 1622, qui représente un cabinet de curiosité italien. On voit, donc on est à 1500, entre 1500 et 1560, on voit des oiseaux, on voit une panthère, on voit un diodon, on voit un requin. Mais le problème, c'est qu'il faudra attendre à peu près 1750 et l'arrivée de Jean-Baptiste Becker, qui est un apothicaire, et qui a inventé un savon arsenical qui a permis à ce que les taxidermies se conservent.
Oui, c'est ça. C'était tout le problème de la conservation,
voilà,
évidemment.
Hein. Absolument.
On n'avait pas du tout les outils.
Voilà. Ce qui veut dire que les spécimens qui sont antérieurs à cette date sont extrêmement rares. Alors, il y en, ouais, a quelques-uns. Il y a un crocodile qui est pendu dans le... l'église de Pantenossa, à côté de Bergame, qui serait de 1530. Il y a un perroquet gris du Gabon qui appartient à la duchesse de Windsor et qui est exposé au musée de Westminster. Mais pourquoi ça vous fait rire ?
Victoire Sondé, pourquoi vous rigolez, ouais.
Et donc, 1702. Ensuite, eh bien, c'est des animaux de Buffon. Par exemple, la caille de Louis XV. Louis XV avait chassé à la chasse une caille albinos. Il avait donné à Buffon. Par miracle, elle s'est conservée.
Ouais.
Il y a sa Joko, son chimpanzé, ouais, aussi.
Et son rhinocéros.
Alors, le rhinocéros, c'est 1793.
Mais c'est Louis XV aussi.
C'est Louis XV, oui, oui.
Ça, c'est quand même une bête
extraordinaire. C'est plus Buffon, il était mort,
oui,
déjà.
Mais c'est une bête extraordinaire, ça, on le voit,
oui,
en,
oui,
photo.
Oui, et c'est l'exemple d'un des premiers montages sur un mannequin rigide.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est un caractère de modernité.
Anne Cunevary.
Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec tout ce qui était embaumement, momie, etc. de l'Antiquité ?
Oui, parce que ce sont aussi des moyens de conservation, mais ce n'est pas de la taxidermie. L'acte principal, lorsqu'il s'agit de taxidermie, c'est qu'on déshabille l'animal de sa peau. C'est-à-dire qu'après le dépouillage, on a d'un côté la peau, de l'autre côté l'écorché. Voilà. Tout ce qui est donc côté écorché, on ne va pas s'en servir pour la taxidermie, surtout pas des os. Enfin, dans les premières tentatives, on s'est servi des os longs, du crâne, etc. Mais dans une taxidermie contemporaine, tout va être en faux. Voilà.
Alors, je montre la photo à nos invités, puis j'invite évidemment les auditeurs à acheter le livre pour le découvrir. C'est le fameux rhinocéros de Louis XV, qui, ouais, est où maintenant, alors ?
Il est à la Grande Galerie de l'Évolution, au troisième étage.
Ouais. Donc ça dû être un travail considérable à l'époque, quand même, parce que le cuir de l'animal devait être très, très lourd.
Ah oui, oui, oui. Oui. Pour vous donner une idée, Siam, donc l'éléphant du zoo de Vincennes,
oui,
qui pesait 6 tonnes de son vivant, sa peau pesait 600 kilos.
Oui. Alors comment on manipule tout ça exactement? Comment vous y prenez? C'est quoi les étapes principales?
Quand c'est un animal de cette taille, les gens me disent « mais comment vous faites pour le faire venir à l'atelier ?» Ben, on ne le fait pas venir à l'atelier, il est absolument intransportable.
Ouais.
Donc ça se passe dans la loge, on utilise des moufles électriques, des leviers pour pouvoir le déplacer, tirer les pattes avec des sangles, etc. Et on le dépouille bien à la main. Donc pour Siam, c'est une dizaine de personnes, ça dure une journée. Et à la fin de la journée, le tanneur vient et prend la peau et va la tanner.
Ouais. Donc là, il faut intervenir très vite après la mort de l'animal.
Absolument.
Ça, c'est une des règles absolues de votre profession.
Oui, oui.
Le lendemain de préférence, en tout cas dans les heures qui suivent la
mort. Ça dépend aussi de la température, si c'est en hiver ou en été. Mais plus on intervient rapidement, meilleure sera la qualité de la peau.
Ouais.
Et ça facilite aussi beaucoup le travail du tanneur.
Ouais. Sur tous les animaux qu'on voit, par exemple, au muséum, dans la grande galerie de l'évolution, est-ce qu'il y a un entretien alors pas quotidien évidemment, mais enfin récurrent pour protéger et conserver ces animaux. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de produits efficaces pour pouvoir les laisser très longtemps comme ça exposés?
Alors il n'y a pas de produit miracle pour les protéger contre les insectes, malheureusement. La poussière, c'est quelque chose de terrible. Il faut lutter contre ça tous les jours.
Ça veut dire qu'on époussette tous les jours?
Absolument.
Ah bon?
Oui, oui, oui. Oui.
Mais comment vous faites alors pour les girafes par exemple? Vous avez
Les gens qui s'occupent de ça ont du matériel, des aspirateurs très spécifiques. On peut aussi propulser de l'air, souffler de l'air, mais c'est pas terrible parce que vous envoyez la poussière sur
chez le voisin
en dessous, chez les voisins, oui. Mais c'est un très grave problème, surtout dans une galerie comme celle de Paris, où beaucoup d'animaux sont hors vitrine.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on découvre aussi, c'est la posture choisie par le taxidermiste, qui est essentielle. Hein. Il y a vraiment l'attitude qu'on souhaite donner à l'animal, dans laquelle il va rester figé. Il y a le regard aussi, qui est très très important. Vous avez plein de tiroirs avec des yeux de toutes les couleurs.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un travail de réflexion que vous avez aussi avec les scientifiques du muséum?
Alors, c'est un travail, c'est un échange, en fait, bien souvent, entre les gens qui s'occupent donc de la muséographie et qui vont, eux, avoir à présenter le spécimen dans l'exposition. Parce que beaucoup de, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais beaucoup de créations sont faites pour ces expositions temporaires.
Oui. Hein,
je pense à Mammouth, je pense à Égypte, etc. Et donc, on fait une maquette à échelle réduite, entre un cinquième et un quinzième.
Mmh.
Et cette maquette en plastiline va servir à régler un certain nombre de problèmes, savoir par exemple de quel côté on fait tourner la tête, quelle posture on lui donne, si on lui donne une posture dynamique ou pas.
Oui.
De ça, pour être en accord avec, avec l'exposition et les muséologues.
En tout cas, ce livre arrive donc pour l'anniversaire du muséum, de la Grande Galerie de l'Évolution, et puis aussi pour fêter, pour célébrer votre profession, pour découvrir ce que vous faites, la taxidermie, avec de très belles photos, signées donc Jack Weckemans, c'est publié donc aux éditions de la Martinière.
Oui, je voudrais rajouter que Jack Weckemans a fait un travail formidable, c'est aussi un magnifique portfolio de photographie qui se tient par lui-même, quoi.
Ouais. Merci beaucoup Jack Tinet, ce livre qui vient de paraître. Merci à tous les quatre pour votre présence cet après-midi. Toutes les infos, les films, les livres dont nous avons parlé, bien sûr, tout cela est disponible sur le site de La Tête au Carré. Passez un très très bon week-end. Dans un instant, bien sûr, l'heure des infos, après Lana Del Rey, Ultra Violence sur France Inter. With beauty and rage, Jen told me.